On vient d'entendre un extrait du documentaire qui s'intitule Gulistan, terre de rose. C'est un documentaire qui porte en fait sur l'engagement armé féminin contre le groupe État islamique. On attendait en fait des bruits d'armes. Ce sont des femmes donc qui manient les armes et elles font partie du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. On plonge donc maintenant dans cet univers, un univers largement méconnu, celui des guerrieras et donc de ce groupe révolutionnaire féminin qui entend lutter à la fois contre la barbarie du groupe État islamique, mais aussi pour la défense du territoire kurde. On en discute avec la cinéaste Zeyne Ekyol. Elle a réalisé ce documentaire qui s'intitule Gulistan, terre de rose, et qui a été produit notamment par l'ONF, l'Office national du film, en 2016. Madame Ekyol, bonjour.
Bonjour.
Vous-même, vous êtes kurde d'ailleurs, vous êtes née en Turquie, vous vivez maintenant à Montréal. D'où vient cette idée de documentaire?
C'est une longue histoire parce que l'idée du documentaire, c'est vraiment à partir d'une histoire très personnelle. Donc moi, j'ai immigré d'un petit village en Turquie très jeune, à l'âge de 4 ans et demi. Et déjà à ce jeune âge-là, les combattants du PKK venaient visiter souvent les villageois kurdes, surtout dans l'est de Turquie. Et puis par la suite, quand j'ai déménagé avec ma famille à Montréal, en Turquie, en fait, c'était interdit à ce moment-là, jusque dans les années 2000, de parler kurde et de vivre la culture kurde. Donc, quand il y a eu une petite communauté à Montréal, les gens ont décidé de créer un centre communautaire où les gens pouvaient se réunir. Et puis, il y avait souvent des conférences très politiques. Des députés qui venaient en donner, des députés de Turquie d'origine kurde. Il y avait beaucoup de manifestations aussi contre l'État turc. Il y avait aussi des activités culturelles. Donc, j'étais entourée vraiment dès un très jeune âge dans un environnement très politisé. Et même à cet âge-là, à peu près, donc vers l'âge de 5-6 ans, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Gulistan, qui veut dire « terre de rose », d'où le titre du film, parce que j'ai décidé de garder le titre pour un peu le dédier à cette femme-là qui est morte au combat en 2000. Un jour, en fait, Gulistan, quand j'étais jeune, elle a décidé d'aller rejoindre le PKK. Et c'était ma gardienne. Moi, je m'identifiais beaucoup à elle. C'était vraiment un modèle pour moi. Puis, comme je le disais tout à l'heure, elle est décédée en 2000. Et donc, l'idée, c'était vraiment, après avoir fait des études en cinéma, j'ai décidé de faire un film sur elle, sur son parcours, sur pourquoi elle avait décidé de s'enrouler au sein du PKK, parce que c'est pas anodin non plus. Elle l'a fait à partir de Montréal et non à partir du Kurdistan. La première version du scénario a commencé en 2010. Et j'ai décidé de m'y rendre en 2011 pour la première fois de ma vie dans la région autonome du Kurdistan pour aller rencontrer des gens qui connaissaient Gulistan. Donc, j'ai rencontré plusieurs femmes qui la connaissaient, qui avaient passé plusieurs années, voire certaines avaient passé des mois, années avec Gulistan. Et j'ai réussi à faire un démo pour les différentes demandes de subventions que j'allais faire par la suite. Et j'ai reçu tout mon financement finalement en 2014. Et je me suis rendue donc en 2014 pour tourner mon film. Malheureusement, la guerre a éclaté. Donc, Daesh venait de prendre Mossoul en juillet 2014. Et nous, quand on est arrivés en août 2014, ils avaient pris la ville de Sinjar. Moi, j'ai quand même essayé de faire le film que j'avais en tête, qui était sur Gulistan. J'ai essayé de retrouver les femmes que j'avais rencontrées au départ en 2011. Mais ça a été impossible parce que certaines étaient décédées, d'autres étaient en zone de combat, d'autres avaient quitté le PKK. Finalement, j'avais pas le choix de faire le film sur ce qui se passait sur le terrain. Et je pense qu'en quelque sorte, même si que je parle pas de Gulistan directement, ça explique beaucoup sur Gulistan, sur la façon qu'elle vivait, l'idéologie aussi qu'elle partageait avec ces femmes-là. Donc, c'est pas sur une Gulistan, mais je pourrais dire que c'est sur plusieurs Gulistan.
Ouais, on va essayer de comprendre ensemble cette idéologie, Zeyne Ekyol. Tout d'abord, qui sont ces femmes que vous rencontrez, qu'on voit dans ce documentaire?
C'est très varié, mais si j'avais à généraliser, je dirais que la plupart viennent du Kurdistan turc.
Parce que c'est ça, les Kurdes en fait sont répartis pour nos auditeurs entre la Turquie, la Syrie et l'Irak, le nord de l'Irak. Hein.
Oui, l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie, effectivement.
Ouais. Et donc, vous l'avez dit, il y a un Kurdistan autonome depuis 2005 maintenant en Irak. J'imagine que ça change les choses, notamment pour les Kurdes, d'avoir cette région autonome au nord de l'Irak.
Ça change les choses, oui et non, parce que historiquement, c'est la première fois que le Kurdistan existe. Il y a eu un moment dans l'histoire où il y a eu une petite région du Kurdistan en Iran, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, quelques mois. Mais oui, historiquement, c'est parce que les Kurdes n'ont jamais eu de pays. Et c'est la première fois qu'il y a une région qui est reconnue comme la région autonome du Kurdistan, qui est dans le nord de l'Irak. Par contre, il y a quand même, les Kurdes ne s'entendent pas nécessairement dans les différentes parties. Le Kurdistan irakien est gouverné par Barzani et Talabani, tandis que, dans mon film, je centre mon attention sur le PKK, qui est un mouvement révolutionnaire de guérilleros, qui est parti au départ, donc fondé en 78 en Turquie par Abdullah Öcalan, donc un Kurde de Turquie, et qui a pris les armes en 84. Donc à la base, c'était aussi un mouvement communiste. Et en 2005, ils ont un peu dévié et ont pris, parce qu'Abdullah Öcalan, à partir de sa prison, donc il a été emprisonné en 99, arrêté par l'État turc. Et à partir de sa prison, en s'inspirant d'un philosophe américain qui s'appelle Murray Bookchin, il a parti cette nouvelle idéologie pour son parti qui se nomme le confédéralisme démocratique, qui est basé sur le féminisme, sur la démocratie directe, sur le pluralisme religieux et culturel, sur l'environnement aussi. Donc, c'est quelque chose, en fait, de très avant-gardiste pour le Moyen-Orient, mais aussi pas nécessairement les Kurdes qui soutiennent le PKK ne sont pas nécessairement en accord avec les Kurdes irakiens qui ont cette région autonome du Kurdistan.
Ouais. Vous le dites, un mouvement avant-gardiste, mais en même temps, le PKK est classé par bien des pays, dont le Canada, parmi les organisations terroristes.
Oui, c'est classé par le Canada, l'Union européenne, l'Australie. Je pense qu'il faut prendre ça avec des pincettes parce que le PKK est aussi actif en Syrie sous le nom du YPG, qui, lui, fait affaire avec les Américains pour reprendre les territoires qui ont été pris d'assaut par Daesh. Pourtant, bon, vous l'avez dit, le Canada les considère comme terroristes, mais les Américains aussi. Pourtant, ils font affaire avec le YPG. Je pense que c'est beaucoup de...
Ça veut dire que c'est l'influence de la Turquie, parce qu'on sait que la Turquie est contre le PKK. C'est la Turquie qui influence ce classement du PKK parmi les organisations terroristes?
Oui, c'est certain, parce que la Turquie voulait être dans l'Union européenne. On lui a dit qu'il y avait un problème de Kurdes, donc il ne pouvait pas être pris dans l'Union européenne. Et finalement, on a accepté de mettre le PKK sur la liste des terroristes comme un peu... C'est beaucoup, en fait, d'accords politiques qui sont dans les différents pays. Moi, je pense que c'est vraiment un cadeau à la Turquie parce que le PKK était taxé d'indépendantiste aussi au départ, plus maintenant, mais c'est le numéro un, l'ennemi numéro un de la Turquie aussi. Et la Turquie fait beaucoup affaire avec différents pays occidentaux.
Ouais, rappelons d'ailleurs qu'il y a 20 millions de Kurdes qui vivent en Turquie. On estime qu'il y en a 8 millions en Iran, 6 millions en Irak, 2 millions en Syrie. Donc on voit les Kurdes qui sont répartis entre ces quatre pays essentiellement. Les Kurdes sont musulmans à 80%, mais il y a également d'autres religions parmi ces Kurdes.
Oui, tout à fait. Il y a des Alevis, il y a des chrétiens, des juifs, des yézidis. Donc, tout à l'heure, je parlais de la ville de Sinjar qui a été prise d'assaut par Daesh. Donc, c'est une minorité.
Ils sont particulièrement persécutés par le groupe État islamique.
Oui, oui. De toute façon, tout ce qui n'est pas musulman est persécuté par Daesh. Oui, il y a plusieurs minorités religieuses au sein des Kurdes.
Zaina Akyol, il est question aussi d'attente dans ce film. On a l'impression que ces femmes sont des combattantes. On le voit qu'elles manient les armes, mais ce sont aussi comme des vigiles. On voit qu'elles scrutent le désert. Parfois, on a l'impression de lire le désert des Tartares, de Dino Buzzati. On a l'impression qu'il y a cette longue attente. Est-ce que ça s'est ressenti dans le tournage que vous avez fait? Est-ce que ces femmes sont là à attendre et à surveiller? Est-ce qu'elles jouent ce rôle de vigile?
Non, c'est pas seulement les femmes, c'est les hommes aussi, parce que bon, le PKK c'est l'armée qui a le plus grand nombre de femmes, qui est 40%. Moi, j'ai pris l'initiative de filmer uniquement les femmes, mais il faut comprendre que il y a aussi des hommes qui attendaient. C'est une tactique aussi du PKK, une idéologie, une philosophie qui est de pas attaquer avant de se faire attaquer. Donc, ce qui m'a beaucoup surpris aussi sur le terrain, c'est que finalement, la guerre, c'était beaucoup d'attentes. Et j'ai filmé en fait ce qui se présentait à moi et donc les hommes comme les femmes, dans le film on voit les femmes, attendaient avant et c'est vraiment une tactique, une stratégie de guerre de regarder ce que l'ennemi fait, de calculer ses mouvements, de voir les différentes choses jour après jour, de voir qu'est-ce qui se passe de leur côté pour mieux planifier.
Vous dites, Zaina Akel, qu'il y a 40% de femmes dans cette armée du PKK. Comment se fait-il qu'il y ait autant de femmes?
Étant donné que c'est basé sur le confédéralisme démocratique qui, lui, prend vraiment racine dans le féminisme, défend les femmes, l'émancipation de la femme. Et leur philosophie, c'est vraiment, en tout cas pour les Kurdes du PKK, c'est de dire comment tout un peuple peut rêver à une révolution alors que la moitié de sa population, qui sont les femmes, ne sont pas émancipées. Donc, il y a une volonté vraiment d'inclure les femmes dans ce combat-là, qui est avant tout idéologique aussi, faut pas l'oublier. Donc, je pense que ça peut beaucoup séduire des femmes qui, finalement, ont très peu de possibilités au Kurdistan. C'est un mouvement qui inclut. Donc, je pense que c'est aussi, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de violence qui est vécue par la communauté kurde dans les différents pays dans lesquels ils sont. Il y a pratiquement toutes les familles kurdes ont au moins une personne dans leur famille qui a été torturée, arrêtée, tuée par l'État. Donc, il y a aussi cette envie de pas rester comme victime puis de se défendre, finalement.
Ouais. Et comment est-ce que ces femmes sont considérées par les autres hommes combattants?
Ah, ben, ils partagent tous la même idéologie, comme je vous l'expliquais. C'est vraiment, ils ont des cours théoriques aussi, beaucoup de cours théoriques. Et c'est vraiment, déjà, ils s'appellent camarades à cause, justement, de l'héritage communiste. L'hiérarchie est très peu ressentie. Les gens peuvent vraiment discuter entre eux. Les hommes comme les femmes sont vraiment égalitaires dans le mouvement du PKK. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est vraiment, j'ai pas ressenti qu'il y avait une animosité ou non, vraiment, c'était assez surprenant.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui cette idéologie communiste? Vous l'avez dit, hein, c'est marquant dans le documentaire, ce terme de camarade qui revient à plusieurs reprises et qui est évidemment très connoté. Est-ce qu'il y a encore cette idéologie qui est partagée par les Kurdes de façon générale? Par le PKK en particulier?
Non, je pense que ça a vraiment changé et pour le mieux. C'est vraiment au départ, donc on se situe déjà dans les années 70-80 où le mouvement est extrêmement fort, le mouvement du communisme, la gauche radicale aussi en Turquie. Et puis par la suite, comme je vous le disais, ça a dévié vers le confédéralisme démocratique qui est beaucoup plus socialiste, si je pouvais l'identifier à un autre système.
On entend également dans ce documentaire, à plusieurs reprises, acclamer le dirigeant Apo. De qui s'agit-il?
C'est le fondateur du PKK. Donc, c'est lui qui a fondé en 78 le PKK. Ils ont pris les armes en 84.
Donc, Abdullah Öcalan, c'est ça? C'est lui,
oui,
Apo?
Abdullah Öcalan, oui, exactement. C'est le diminutif. Et il est en prison depuis 99 et on le voit aussi dans le film. Parfois, ils reçoivent des lettres de Abdullah Öcalan encore. Et donc, il continue un peu à diriger, mais de loin, en tout cas, à donner son opinion sur ce qui se passe politiquement sur le terrain.
Et est-ce qu'on sait d'où viennent les armes qui servent donc à ces combattantes kurdes?
Ah, ben ça, je pourrais pas vous le dire parce que même si je pose la question, on va pas vraiment me répondre. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la plupart de la population kurde finance le PKK. Et le PKK fait très peu d'alliances avec les différents pays. Donc, j'imagine qu'ils l'achètent avec l'argent qu'ils réussissent à récolter de la communauté.
Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs types d'armes. On voit que ces femmes qui manient les armes connaissent très bien leur fonctionnement, qu'entre elles même, elles comparent les avantages et les inconvénients de certains types d'armes. C'est assez impressionnant de voir cette maîtrise des armes et un échantillon assez large d'armement.
Ben oui, on est en guerre quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est tout à fait normal qu'elles connaissent les armes parce que sans les armes, elles peuvent pas combattre, elles vont mourir. C'est la seule chose sur laquelle elles peuvent compter. Donc oui, véritablement, ils ont une formation très poussée sur tout ce qui est armes, à l'arsenal de guerre. Mais il y a aussi cette volonté-là de s'éduquer au sein du PKK.
Est-ce qu'on a une idée, Zaina Akel, du nombre de femmes kurdes qui combattent dans cette armée du PKK?
Je pourrais pas vous dire parce qu'avant la guerre à Daesh, il y avait 10 000 combattants, hommes et femmes, du PKK. D'après moi, au jour d'aujourd'hui, ça devrait être le double.
Alors essentiellement, ils combattent, vous l'avez dit, au Kurdistan irakien contre le groupe Daesh. Est-ce que pour les autres minorités kurdes qui vivent en Iran, qui vivent en Syrie, qui vivent en Turquie, c'est comme un signe d'espoir la création de ce Kurdistan irakien? Est-ce que ça peut devenir comme un sanctuaire pour les Kurdes des pays limitrophes?
Je pense que pour ce qui est des gens qui soutiennent le mouvement du PKK ou du YPG, c'est beaucoup plus un espoir ce qui se passe en ce moment en Syrie, parce que le YPG a repris beaucoup de territoires qui étaient ancestralement kurdes, donc où il y avait beaucoup la majorité des territoires kurdes ont été repris à Daesh et ils sont en train de créer ce nouveau gouvernement-là dont je vous parlais tout à l'heure, le Confédéralisme démocratique, qui semble d'ailleurs très bien fonctionner. Donc je pense que c'est beaucoup plus le Kurdistan syrien en ce moment qui donne espoir aux gens qui soutiennent le PKK.
Il y a également, à travers votre documentaire donc, qui s'intitule « Gulistan, terre de rose, Zeynep Akyol », il y a, malgré, vous l'avez dit, on est en guerre, ce sont des combattantes kurdes, il y a aussi quelque chose de très poétique qui émane de leur démarche. Est-ce que ça fait partie, je dirais, de l'âme kurde, de cette idéologie que vous avez définie aussi tout à l'heure?
Vous avez raison, il y a quelque chose de très poétique. Je pense que ça... vous savez, on est vraiment dans la nature, dans la première partie du film, et on est très loin de tout ce qui est technologie. Je pense que être comme ça, en contact avec la terre, la nature, ça aide aussi à avoir des liens peut-être humains plus forts. On n'a pas le choix non plus de se parler. On vit un quotidien dans des conditions assez extrêmes. Et puis, je pense que c'est ça, beaucoup plus le fait d'être connecté qui amène cette poésie-là.
En tout cas, on le ressent à travers le film avec cette espèce de contraste insaisissant entre, évidemment, l'horreur de la guerre, le monde du combat, et puis à côté de ça, ben, cet univers poétique, cette philosophie de la vie. Donc vous avez suivi, on le rappelle, ces femmes kurdes, ces femmes combattantes qui combattent à la fois contre la barbarie du groupe État islamique, mais également pour la défense de ce territoire kurde, pour cette identité kurde. On l'a vu qu'il y a beaucoup de difficultés, finalement, à émaner face à la répartition de ces Kurdes sur plusieurs pays, en Irak, en Syrie, en Iran et évidemment en Turquie où se trouve la majorité de ces Kurdes. Vous-même d'ailleurs, vous êtes d'origine kurde, vous êtes né en Turquie, vous vivez désormais à Montréal. Je rappelle que votre documentaire s'appelle Gulistan, terre de rose. C'est notamment coproduit par l'Office national du film, l'ONF. C'est sorti donc en 2016. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous en parler ce matin.
Merci beaucoup de l'invitation.
Au plaisir.
Au revoir.
Au revoir.